Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Plus écolo, les cosmétiques solides ont le vent en poupe. Shampoing, dentifrice, déodorant, chaque cosmétique liquide classique existe désormais en version solide. Mais sont-ils vraiment plus sains et aussi efficaces? C'est l'enquête de la semaine. Les jonquilles pointent le bout de leur nez annonçant le retour des beaux jours. Avec sa fleur en trompette, son air timide et un parfum entêtant, la jonquille fait le bonheur des promeneurs et des enfants qui aiment les cueillir en forêt pour en faire des bouquets. Mais comment les planter et comment les entretenir? C'est la question de la semaine. Et puis, bonne nouvelle, mardi prochain, c'est Mardi Gras, jour de carnaval, d'abondance, où toutes les gourmandises sont permises. Alors, comment réussir vos crêpes, vos gaufres et vos beignets? Eh bien, ce sont les recettes gourmandes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse que je suis de vous retrouver pour tous les samedis matins pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien, le magazine conso qui vous éclaire et qui vous divertit en même temps. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur RTL et ça commence tout de suite. Sylvie Metzeler, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, dont le numéro de février est en kiosque. On va parler d'une sorte de révolution. Hein. J'ai l'impression que c'est absolument partout, les cosmétiques solides. C'est quoi en fait pour ceux qui nous écoutent?
Alors un cosmétique solide, c'est un produit dont la recette ne contient pas d'eau ou presque pas d'eau. Alors les produits les plus courants et qui se développent énormément hein, sur le marché, comme vous avez dit tout à l'heure, ce sont les dentifrices, les déodorants et les shampoings. Alors ils se présentent sous différentes formes. Hein. Pour les shampoings, ça peut être des petits pains, des galets, ça ressemble à des savons.
Oui, c'est
en fait,
ça.
Hein. Mmh. Et les déos, ça peut être en stick, en pain aussi, ou sous forme de crème. Et les dentifrices, c'est aussi encore d'autres variétés. On a des petits galets sur lesquels, hop, vous passez votre brosse à dents. Mais ça peut être aussi de la poudre ou des pastilles à croquer qui se transforment en poudre et après vous frottez bien fort et hop, c'est parti.
Et hop, c'est parti. Où est-ce qu'on les trouve ?
Partout maintenant, hein, dans toutes les grandes surfaces et bien sûr dans les boutiques bio et sur Internet naturellement.
D'accord. Comment on les applique en fait s'ils sont solides ? C'est facile d'utilisation ?
Alors ça dépend et c'est vraiment des nouveaux usages. Alors un déo crème par exemple ou un baume, ça s'applique aux doigts et ça a pas mal dérouté notre panel d'utilisateurs parce qu'on est habitué aux sticks. Alors des sticks il y en a, c'est plus simple, c'est plus facile naturellement. Et les galets aussi, les panélistes n'ont pas trop aimé parce que vous frottez votre petit galet sous des aisselles, c'est des gestes nouveaux. Alors le shampoing, c'est avec le pain. Soit vous frottez vos mains humidifiées, donc ça mousse et après vous appliquez sur vos cheveux ou vous appliquez directement sur les cheveux. En fait, il faut regarder les notices d'utilisation sur les boîtes, c'est assez bien expliqué.
D'accord, ok. Mais alors, justement, parce que c'est vrai que je pense que c'est ça qui repousse un petit peu les gens, c'est qu'on a finalement des habitudes de mousse, de forme liquide, et là, tout à coup, on a le sentiment que ça ne fait pas le même effet. Est-ce que les shampoings solides moussent? Est-ce que d'ailleurs la mousse est synonyme de qualité?
Ah non, pas forcément. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment des questions d'usage et d'habitude. Alors, ouais, ça mousse, hein, les shampoings. J'ai essayé, hein. C'est pour comme ça, je suis sûre de pas vous dire de bêtises. Je les ai vraiment essayés. Ouais. Donc oui, ça mousse. Alors, au départ de ces produits-là, ça moussait pas si bien, je pense. Parce que quand vous regardez des vieux blogs, enfin, ou des vieilles publications de blogs, ça vous dit, ah, ça mousse pas. Mais franchement, maintenant, ça mousse. Il y a des tensions actives, c'est beaucoup moins fort. C'est ce qui fait mousser, hein. C'est beaucoup moins fort que dans les produits tradis, mais il y en a et donc ça mousse.
Mais c'est plus sain pour la peau que des produits traditionnels?
Alors, globalement, c'est des produits qui ont des formules plus courtes.
Et donc c'est mieux.
Bien moins il y a aussi bien moins de substances problématiques. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait, hein, c'est pas le monde merveilleux de Walt Disney, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Et alors, faut juste limiter un peu le propos parce que certaines substances à la longue peuvent provoquer des irritations. C'est le cas notamment du bicarbonate de sodium que vous avez dans les déodorants solides, notamment. À la longue, on peut être un peu irrité. Ça dépend de votre peau, en fait. Et on a toujours aussi le même problème avec les huiles essentielles aussi. Les huiles essentielles, ça apparaît soit comme substances parfumantes ou antimicrobiennes. Et ça aussi, elles peuvent être allergisantes ou sensibilisantes. Il faut faire attention.
Je comprends. Vous parliez justement, il y a un instant, du bicarbonate de sodium qu'on retrouve dans les déos. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des substances controversées, comme les sels d'aluminium, justement, ou les parabènes, les silicones?
Oui, alors non, il n'y a pas de sel d'aluminium du tout dans les déodorants et dans les shampoings, il y a rarement de silicone, il y en a pas dans ceux qu'on a testés d'ailleurs, ni de sulfate dans ces shampoings. Alors, ce sont des substances qui sont problématiques pour l'environnement, notamment. Alors, il y en a d'autres. On a des substituts qui sont pas toujours mieux, mais au global, c'est quand même bien moins lourd en termes de substances controversées.
Est-ce qu'on peut les utiliser si on a une peau sensible ou réactive ?
Alors, c'est exactement comme les autres produits. Vous pouvez être sensible à certains ingrédients. Il faut vraiment tester, y aller doucement en fait. Et puis, il faut changer son fusil d'épaule quand il n'y a pas. Mais oui, vous pouvez être sensible à certaines substances.
Ok. Il y a des produits nobles de toute façon hein, dans ces produits-là. Sinon, on n'en parlerait pas.
Alors, ça dépend ce que vous entendez par produits nobles. Alors, on peut dire qu'il y a énormément d'ingrédients d'origine végétale,
voilà,
d'origine
c'est ce que j'allais vous
naturelle.
Dire.
Hein, c'est pour ça, voilà. Donc, ce sont des huiles en tout genre. On peut avoir du lait d'avoine, etc. Alors, vous aurez aussi, on parlait de tension active pour que ça fasse mousser. Il y en a aussi dedans. Donc, alors, ce qu'il faut faire, en fait, quand vous lisez les étiquettes, moi, je me suis amusée à faire ça pour les shampoings avant de choisir un shampoing solide. Vous regardez ce qui arrive au début. En fait, si vous avez des huiles au début, c'est vraiment les premières substances indiquées qui sont le plus en nombre dans votre produit.
Bah, comme donc, les ça, étiquettes, c'est un bon indicateur. Comme les étiquettes
pareil.
Alimentaires, en fait. Hein, c'est exactement
pareil,
la même chose.
Quoi.
Je comprends. Mm-hmm. Et c'est quand même super parce qu'ils sont plus écologiques. On est d'accord qu'on fait une grosse économie de plastique ou de
oui.
carton.
Oui, parce que c'est vraiment écologique parce que leurs emballages sont bien plus réduits que sur les autres produits. Et comme il n'y a pas d'eau, on n'est pas obligé d'avoir du plastique. Donc, on s'en passe généralement dans tous les produits qu'on a testés. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui avait un emballage, mais qui était un emballage réutilisable en plus.
Okay.
Donc, en termes écologiques, c'est énorme quand même. Et comme il y a des formules aussi plus courtes dans des produits eux-mêmes, ça limite aussi les polluants.
Et puis c'est super pratique. Enfin, je veux dire, quand on voyage dans les aéroports, ça prend moins de place que
oui,
vous savez, même dans une valise, on a toujours des bouteilles de shampoing, de gel douche.
Oui. Et puis vous pouvez prendre l'avion avec, parce que si vous avez votre petit pain de shampoing dans votre sac à main, c'est sûr que vous n'aurez pas de problème à l'aéroport.
Ah, mais exactement, on peut prendre ça en bagage à main. Oui, je comprends.
Absolument.
On va se retrouver dans un instant. On a encore des questions à vous poser. On va accueillir également nos invités, que sont Pierre Nesman, qui va nous parler des jonquilles. Il va peut-être même nous en offrir. Et puis Ligori Lecomte, qui viendra nous donner les recettes de Mardi Gras. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Nous voilà bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
Nous voilà bien, c'est ce que l'on se dit tous les samedis matins de 9h15 à 10h sur RTL. On accueille tout de suite Pierre Nesman. Bonjour Pierre.
Bonjour Flavie, bonjour.
Est-ce que
à tous.
Vous êtes venu avec des jonquilles ?
Flavie, vous me taquinez.
Mais je vous adore parce qu'il suffit que vous en parliez pour qu'on ait le sentiment d'en avoir une grande brassée.
Elles
merci à vous
cœur,
d'être
cas.
Là, je le sais. Merci beaucoup. Alors, Ligori Lecomte, est-ce que vous êtes venu avec des bonnes recettes de Mardi Gras ?
Je vais sortir ma crêpière, vous voyez, qui va enfumer le studio.
Non, mais moi, j'aime être fleurie et j'aime bien manger. C'est quand même un truc de dingue, ça, messieurs. Merci en tout cas à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous êtes adepte de cosmétiques solides ? Pierre Nesman.
Bah oui, par principe, oui.
Génial, vous en avez ?
Je suis jardinier, donc effectivement, oui, quelques-uns. Je débute. C'est assez. Il faut apprivoiser les produits d'une manière un peu différente.
Qu'est-ce que vous avez ?
Que ce soit le shampoing, par exemple, c'est un peu particulier.
Ouais.
Il faut d'habitude.
De nouveaux gestes.
Voilà, c'est des nouveaux gestes. Ouais, c'est des habitudes nouvelles, effectivement.
Est-ce que vous connaissez Ligori Lecomte,
oui,
vous
tout
qui
à fait.
Êtes un jeune papa ?
Oui, justement, grâce à ma femme qui nous a un peu imposé ça au début à la maison. Finalement, on s'y fait assez rapidement. Donc, c'est une belle démarche.
Eh bien, voilà. C'est avec vous qu'on en parle, Sylvie Metzeler. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et vous avez justement mené l'enquête sur ce phénomène, hein, je dirais, parce que c'est bien, j'ai l'impression que ça commence à rentrer dans les mentalités, hein, ces fameux cosmétiques solides. Est-ce que l'avantage aussi, Sylvie, c'est qu'ils ont une durée de vie plus longue que les produits classiques ?
Alors, ça dure plus longtemps à condition de bien s'en servir et de pas laisser traîner son pain de shampoing ou son petit galette dentifrice à l'humidité après usage. Parce que là, ça fond tout de suite. C'est comme, vous savez, comme nos anciens savons qu'on avait tendance à laisser fondre sous la douche. Donc là, c'est vraiment pas du tout économique et du coup, notre durée de vie est pas plus longue. Mais sinon, oui, ça dure plus longtemps. Et alors après, il y a certains fabricants qui vantent le fait, par exemple, notamment pour le shampoing, qu'un pain de shampoing solide équivaut à peu près à deux flacons de shampoing liquide.
Ok, mais tout ça, ça dépend aussi de la façon dont on l'utilise, quoi, j'imagine.
Oui,
parce que je pense pas que Pierre Nesman et Ligori Lecomte et moi-même ayons la même consommation de shampoing, si vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, ça n'est pas forcément si simple. C'est plus économique ou c'est plus coûteux d'avoir des cosmétiques solides ?
Alors, au global, ça reste un peu plus coûteux quand même que les produits conventionnels, mais c'est à peu près pareil que les produits bio.
Okay.
Alors, c'est vrai, si on fait un usage logique, etc., mais comme le shampoing et le dentifrice, notamment, on utilise toujours beaucoup plus que la dose qui est normalement prescrite, on va dire, on doit s'y retrouver à peu près.
Alors, le dentifrice, vous avez essayé, Pierre Nesman ?
Non,
c'est un
ça
peu chelou.
M'inspire moins, oui,
voilà.
Ça m'inspire moins.
C'est très étrange, vous avez essayé ?
Dentifrice,
ou pas,
non plus,
Ligori.
Mais c'est vrai que les petites pastilles, c'est assez curieux.
Ouais. Oui, il faudra essayer ça, les petites pastilles. Non, mais parce que ça n'est pas du tout la même utilisation. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé, j'ai trouvé ça assez étrange. Et puis surtout, j'ai noté aussi, Sylvie Metzeler, que la plupart des dentifrices solides, ils ne contiennent pas de fluor. Alors que l'Union française pour la santé bucco-dentaire en recommande, justement, ces fameux dentifrices au fluor. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Alors, il faudrait déjà demander aux fabricants pourquoi ils s'obstinent à ne pas mettre de fluor. Alors, c'est vrai à la fois sur les solides, mais aussi sur tous les dentifrices, pas tous, mais une grande partie des dentifrices bio. C'est la grande mode de ne plus mettre de fluor dedans. Mmh. Alors, pourquoi ? Alors, on s'est posé la question quand même. Alors, on a toujours la peur de la fluorose. Alors, la fluorose, c'est un excès de fluor qui va faire que l'émail de vos dents s'abîme et que vous allez avoir des taches dessus. Alors, ça touche les enfants, mais les enfants, les excès de fluor, ils risquent plus trop d'avoir parce que maintenant, on ne supplémente plus. Alors, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on ne supplémente plus les enfants. À autrefois, on leur donnait du fluor. Tout petit. Moi, j'ai une fille, je lui ai donné du fluor, mais on ne donne plus du tout ça aux enfants, donc vous ne risquez plus la fluorose. Donc, voilà, c'est quand même... Contre les caries, c'est quand même pas mal le fluor, faut quand même le dire.
Bon, alors selon votre étude, c'est parti. Quel est le meilleur shampoing dentifrice et déodorant solide que l'on retrouve dans 60 millions de consommateurs ?
Alors le shampoing solide, c'est un shampoing Corinne de Farm. Le dentifrice, c'est le dentifrice à croquer menthe douce de 900 points care. Et le déodorant, c'est Sweet Serenity par We Love the Planet. Ils ont obtenu quand même tous des notes entre 14,5 et 17. Ce sont quand même des super notes.
Oh bah ça donne envie, ça, dites donc. Eh bien, j'espère qu'on aura réussi à convaincre nos auditeurs. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvie Metzeler, pour toutes ces informations au sujet des cosmétiques solides. Je vous souhaite un très bon week-end et on vous retrouve donc dans 60 millions de consos. À bientôt.
À bientôt, merci.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
J'ai connu Milly aux premières jonquilles. Elle était si jolie, des jonquilles des mille lilas.
Bonjour Pierre Nesman.
Bonjour Flavie.
Vous la connaissez cette chanson du Gaufret ?
Non, je la connaissais pas.
C'est pas vrai. Oui. J'allais vous chambrer en vous disant que c'était votre génération, alors que moi je la connais par cœur.
Non, non, non.
C'est une très jolie chanson des Jonquilles au dernier lilas. Je rappelle votre dernier livre, Mon jardin s'adapte au changement climatique chez Delachaux et Niesley. Merci d'être notre invité. Première question. On va parler des jonquilles. C'est quoi la différence entre la jonquille et la narcisse ?
Alors, on va faire un petit cours de botanique. Le terme de narcissus en latin, en fait, englobe toutes ces fleurs printanières qui ont effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, une petite trompette, une couronne de pétales. Et dans cette grande catégorie, vous avez les narcisses, que l'on retrouve essentiellement dans nos jardins, et les fameuses jonquilles. Et c'est vrai que les jonquilles, on a un peu tendance à l'utiliser comme un nom populaire, et on baptise un peu tous les narcisses jonquilles. Or, la jonquille, il faut savoir, Flavie, c'est une plante qui est originaire du sud de l'Europe, Portugal, Espagne, et qui est pas du tout, qui est assez différente du narcisse. En fait, elle a des feuilles arrondies, cylindriques, et c'est d'ailleurs comme un petit jonc, d'où son nom, jonquille, jonquilla en latin.
Okay.
Et donc, c'est la différence. Et d'autre part, elle a une trompette qui est toute petite. Les narcisses ont des trompettes assez importantes et là, la jonquille a une toute petite trompette. C'est ce qui permet de les distinguer.
Et ça pousse partout, ça, les jonquilles et les narcisses ? Ça pousse sauvagement dans nos campagnes aussi ?
Effectivement, ça va pousser dans les prairies humides, ça va pousser dans les sous-bois et on va les trouver à partir du mois de mars-avril.
Maintenant, donc.
Elles vont se développer effectivement de manière tout à fait spontanée.
D'accord. Il y a le symbole du narcisse ou de la jonquille ?
Narcisse, c'est Narcisse, le fameux berger, vous savez,
bien sûr.
Berger grec qui était très beau, qui s'est regardé sur une pièce d'eau, sur un miroir d'eau, et puis qui est tombé amoureux de son image, mais qui n'a jamais réussi effectivement à se saisir. Et du coup, eh bien, on se languit. C'est la fleur qui symbolise je me languis de désir, je me languis d'amour.
Ah, c'est bien pour ça que vous m'avez pas apporté des narcisses ce matin.
Très attention.
Ou des gens qui...
C'est diplomatique. Tout ça, c'est diplomatique.
Tout ça, c'est par délicatesse justement. Vous ne vouliez pas me faire passer un message. Pierre Nesman, combien de temps ça fleurit? Parce que moi j'ai l'impression que c'est assez rapide cette période en fait, qu'il faut savoir en profiter presque comme les primes vertes, c'est
oui,
très rapide.
C'est assez éphémère et l'intérêt justement des narcisses, eh bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser des variétés, notamment au jardin où c'est le rebord de fenêtre, des variétés qui sont hâtives et des plus tardives, c'est-à-dire qu'elles vont fleurir du mois de mars jusqu'à pratiquement fin avril. Et l'intérêt dans un jardin, c'est justement d'essayer d'échelonner avec des variétés différentes, eh bien, d'échelonner et d'étirer cette période de floraison.
On va se retrouver dans un instant, vous allez continuer à nous parler de fleurs. Igori Lecomte, vous êtes bien sage, vous êtes en train de réviser vos recettes. Vous écoutez, vous apprenez.
Dans mon coin, ouais, j'apprends plein de choses.
Vous nous donnerez des bonnes recettes festives pour Mardi Gras. On se retrouve dans un instant pour la suite de Nous Voilà Bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Nous Voilà Bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
Mardi, c'est Mardi Gras. Et d'ailleurs, Igori Lecomte, vous êtes notre invité pour nous donner des recettes. C'est forcément fat, c'est forcément calorique le Mardi Gras?
Alors en fait, ça va lancer un petit peu le début du carême, vous voyez, où on est censé un petit peu se priver. Donc là, on se fait plaisir, Mardi Gras.
On se fait plaisir avant effectivement de serrer un petit peu plus les vis. Pierre Nesman, vous êtes notre invité également pour parler des jonquilles, comment les cueillir, les planter et puis surtout les entretenir. Les jonquilles, elles poussent partout, vous nous le disiez il y a un instant, hein, dans des prairies humides, vous le dites si bien. Mais alors, est-ce que j'ai le droit d'aller en cueillir? Je ne sais pas dans quelle mesure je peux. Alors, je ne parle pas du rond-point en bas de chez moi. Hein. J'ai bien compris que ça, on n'avait pas le droit de le faire, mais il peut y avoir de la cueillette familiale?
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a une tolérance pour la cueillette dite familiale. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, le terme, c'est de pouvoir ramasser, de cueillir uniquement ce que la poignée de main peut contenir. Donc, quand vous êtes une famille, bah, chacun peut partir avec un bouquet de narcisses, de jonquilles, effectivement, mais pas plus. Il ne s'agit pas effectivement de remplir des paniers ou des caisses pour en faire commerce après. Donc il y a une tolérance sur le domaine public, sur les forêts ou dans les prairies, il y a une tolérance.
Et on peut être contrôlé?
Alors on peut être contrôlé parce que dans certaines régions, quand il y a des fêtes importantes sur le narcisse ou la jonquille, notamment dans la région de Gérardmer, dans les Vosges, eh bien effectivement on peut dégrader en tassant les terrains, en arrachant les fleurs, et du coup on peut dégrader le milieu. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir des arrêtés municipaux qui vont réguler la cueillette des jonquilles.
Et pour ne pas abîmer justement, comment est-ce qu'on coupe les jonquilles?
Alors justement, on va les couper avec un couteau, mais on va ne surtout pas arracher le bulbe. Vous savez, le bulbe, c'est cet organe, c'est un peu un oignon qui est sous terre et qui va permettre justement aux narcisses et aux jonquilles de se développer. Et il faut éviter justement d'arracher ce bulbe. On va couper la fleur délicatement et puis on va laisser le feuillage en place.
Est-ce que ça peut repousser une jonquille?
Alors quand vous avez cueilli une fleur de jonquille, non, c'est pas comme une bouture. Quand vous la mettez dans l'eau, ça ne va pas faire de racines. Et puis évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a des bulbes qui sont sous terre et eux, on n'a pas le droit de les arracher. Il vaut mieux effectivement les acheter dans une jardinerie ou chez un producteur.
Eh bien moi, j'ai peur des bulbes. Alors, je suis bulbophobe. Non mais, Igori Lecomte, ça vous impressionne pas les fleurs à bulbe? Je vous parle pas visuellement, mais de savoir quoi en faire.
Non, mais là, alors, je trouve ça intéressant même que ça.
Mais vous gardez vos bulbes, vous, ou pas?
Ah bah moi, une fois qu'ils sont sur la table, c'est plutôt madame qui s'en
occupe. Enfin, vous êtes au fourneau, donc chez vous, tout fonctionne bien.
Au fourneau et au potager, oui.
Voilà, bon, très bien. Non, mais pourquoi je vous pose cette question? Vous comprenez, Pierre, l'idée?
C'est l'aspect,
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça m'impressionne toujours. Je ne sais pas quoi faire de ces bulbes. C'est-à-dire, quand j'achète des jonquilles ou des narcisses et que la fleur fane, je me retrouve avec des bulbes. Je ne sais pas quoi en faire.
Alors, quand vous avez acheté des narcisses et des jonquilles, effectivement, et vous les achetez dans des pots.
Oui.
Donc là, les producteurs les ont déjà mis dans des pots avec du terreau, et on appelle ça des bulbes forcés. Et donc ça, ces bulbes, ils vont après la floraison, donc vous allez enlever les fleurs, vous allez garder la tige, garder les feuilles, parce que l'énergie qui est dans la tige et les feuilles va retourner dans le bulbe pour reconstituer un nouveau bulbe, pour produire des nouvelles fleurs et des nouvelles fleurs l'année d'après.
Mais j'en fais quoi de mes bulbes?
Et ben, le bulbe, il va au repos, il va se reposer. C'est-à-dire que dès qu'il a les feuilles ont séché. Le bulbe va conserver toute cette énergie. Il va se mettre au repos pendant tout l'été. Et au printemps, à l'automne suivant, au mois de septembre-octobre, vous allez pouvoir le replanter. Il va reprendre un cycle normal.
Mais comment je le conserve et comment je le mets au repos?
Alors, vous le mettez au repos à la cave. Il ne faut pas le mettre effectivement dans un grenier, à la lumière, au chaud, au sec. Vous le mettez à la cave. Vous le mettez dans une caisse, à l'obscurité, dans un local
frais,
effectivement, obscur, frais, aéré. Et puis, il va passer l'été de cette manière-là. Et puis, il va repousser.
C'est aussi simple que
c'est
ça.
C'est tout à fait simple et absolument simple. Et au mois de septembre de l'année suivante, au mois d'octobre, vous allez le replanter au jardin. Il va produire des racines pendant l'hiver. Et au printemps suivant, il va refaire des petites pousses avec des fleurs.
Donc, ça veut dire que, si j'ai bien compris, donc à l'automne, je le remets en terre, mais je le mets dans un sens particulier ou
alors,
pas?
Là, il faut faire très attention. Quand vous avez la pousse qui est au-dessus et la partie plate du bulbe qui est un peu plus en dessous, inférieure, eh bien, vous allez mettre la partie un peu pointue avec la pousse vers le haut et la partie plate plutôt vers le bas.
D'accord. Et ça va pousser après au printemps.
Effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va profiter de l'automne pour développer des racines. Et puis, il va passer l'hiver. Il supporte très, très bien le froid. C'est parfaitement rustique. Et au printemps, au mois de janvier, février, il va commencer à faire des petites feuilles, puis une tige. Et puis, à ce moment-là, il va se refaire une floraison comme si on l'avait récupéré un an d'avant, comme un an avant.
J'ai jamais osé.
Ça repousse.
Mais non, mais moi, j'ai toujours considéré au mois de décembre. Je dois confesser que je les ai jetées.
Les tulipes, les jacinthes, les narcisses, toutes ces fleurs à bulbe, c'est comme des oignons, vous allez pouvoir les garder d'une année à l'autre.
Et puis c'est économique, hein, pardon, mais c'est vrai que moi j'en rachète à chaque fois, et alors qu'en réalité je pourrais très bien vivre avec le même bulbe plusieurs années.
Effectivement, c'est bien ce que j'ai compris. Vous pouvez vivre avec votre bulbe plusieurs années de suite.
Comment j'entretiens mes jonquilles? Alors, qu'on va m'offrir là, j'espère,
alors,
en pot.
On vous a offert des jonquilles dans des pots, vous en avez profité à l'intérieur ou sur un rebord de fenêtre ou sur le balcon. Quand elles ont fini de fleurir, vous coupez les fleurs, mais pas la tige, les fleurs uniquement, de manière à ce que la sève redescende dans le bulbe pour reformer un nouveau bulbe. Le vieux bulbe qui a été utilisé là, il est hors service. Donc c'est un nouveau bulbe qui va se créer avec l'énergie, avec la sève, qui va redescendre des feuilles et des tiges. Ensuite, vous l'hivernez, vous l'arrosez un petit peu au moment que vous allez le recevoir, hein, évidemment, en matière d'entretien, il faut continuer un petit peu à l'arroser. Mmh. Et si vous voulez en profiter plus longtemps, eh bien, mettez-le dehors, au frais, pour éviter qu'il se pince, il se développe plus rapidement. Et puis, vous allez pouvoir comme ça le garder.
Et si ça ne repousse pas?
Ah bah alors, si ça ne pousse pas, il peut y avoir plusieurs choses. Quand vous les avez au jardin, ça peut être un manque de lumière, ça peut être un excès d'eau, d'humidité, mais il peut y avoir aussi des rongeurs, parce que quand vous les avez plantés au jardin en pleine terre, le bulbe, évidemment, c'est très savoureux, c'est comme un oignon. Donc les rongeurs, les petites bestioles qui sont sous terre, eh bien, vont le trouver et risquent de le dévorer. Et c'est vrai que là, vous risquez de ne plus le retrouver au printemps suivant.
Dernière question, si on m'offre un bouquet, cette fois-ci, de jonquilles, comment est-ce que je peux leur donner une grande de longévité de vie dans le vase?
Première opération, vous allez couper les tiges en biseau, légèrement en biais, pour augmenter la surface d'absorption en eau. La deuxième chose, on va les mettre uniquement, indépendamment, seuls dans un vase. On ne va pas les mélanger, parce que vous avez vu, il y a une sève qui est un peu gluante.
Oui, tout à fait.
Et en fait, elle se propage dans l'eau et elle va accélérer le processus de maturité des autres fleurs. Et puis alors, pour couper cet effet de sève qui s'évacue, on peut éventuellement les laisser, après les avoir coupés, les laisser pendant 30 minutes pour que ça se cautérise. Ou alors les passer sous une flamme, de manière à ce que évidemment cette sève ne s'échappe pas dans le vase. Vous changez l'eau tous les deux ou trois jours, vous le placez effectivement pendant la nuit dans une pièce un peu plus fraîche, et là vous allez en profiter plus longtemps.
Merci beaucoup. Et puis si on veut profiter aussi, on peut aller à la fête de la jonquille à Gérardmer, vous en parliez justement, dans les Vosges, c'est du 16 au 18 avril 2022. Pierre Nesman, vous restez avec nous, car dans un instant, place à la gourmandise avec vous, Ligori Lecomte.
Maintenant tu sais faire de la...
Ligori Lecomte.
Vous avez toujours le chic pour trouver une musique.
Ah mais ça vous va tellement bien.
Tellement
si, ça vous va tellement bien, je vous imagine en train de faire votre pâte à crêpes comme Max Boublil. Soyez le bienvenu, Ligori. Donc vous êtes chef du site cuisineaz.com, vous êtes auteur culinaire. Je n'ai jamais réussi à faire la différence entre une pâte à crêpes et une pâte à gaufres. C'est pas la même chose.
Mais ça va changer aujourd'hui. En fait, c'est sensiblement les mêmes ingrédients. Il y a un peu plus d'œuf dans la pâte à gaufres, un peu plus de lait dans la pâte à crêpes.
Ça m'étonne pas.
En fait, quand on fait des crêpes, on cherche plutôt la douceur. Quand on fait des gaufres, on cherche plutôt le côté croustillant.
Oui, c'est vrai.
Voilà. À noter quand même que les gaufres, c'est un petit peu plus gras, un petit peu plus sucré.
D'accord. Ouais. Vous avez une préférence, mon cher Pierre-Nesman?
Ah oui, crêpes, oui.
Oui, remarque, ceci dit, je vous dis ah oui, mais en fait, moi aussi. Mais même les deux, je dirais. Hein, mais
la gaufre, c'est difficile à manger. Enfin, c'est très ennuyant à manger. On s'en met partout.
C'est vrai.
J'adore.
Vous adorez. Ouais, mais moi,
vous êtes d'accord?
Alors, moi, je préfère les gaufres, mais...
Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à Mardi Gras, on se régale.
Ah bah ça, c'est sûr. Ça,
voilà,
c'est, clair,
c'est un peu la mission de Mardi Gras.
Ah bah, on oublie un peu le côté détox du début d'année. On oublie toutes les bonnes résolutions. Là, Mardi Gras, c'est le moment pour se refaire plaisir.
Tant est qu'on ait eu un début d'année détox, parce que je ne sais pas pourquoi, mais cette année, tout le monde n'en pouvait plus. Tout le monde était au bord du gaz et je ne suis pas persuadée que tout le monde ait fait du détox en début d'année. Bon, enfin bon, écoutez, hein, franchement, en ce moment, avec ce qu'on vit, ça fait quand même du bien de pouvoir se faire plaisir. Allez, on revient à nos pâtes à crêpes. Quelle farine utiliser pour les crêtes et les crêtes et les gaufres?
Les crêtes et les gaufres, ouais. Eh bien alors, de la farine toute simple, T45, ça marche très très bien. Après, on peut utiliser d'autres farines, comme de la farine sans gluten, c'est maintenant très à la mode, donc farine de riz, c'est possible. Par contre, si on utilise de la farine sans gluten, on va rajouter un petit peu de maïzena pour ajouter ce liant, vous voyez, qu'on n'aurait pas dans une farine sans gluten.
On va se retrouver dans un instant, on va poursuivre notre conversation, Ligori Lecomte, poursuivre cette conversation autour du plaisir et de Mardi Gras. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous voilà bien sur RTL
avec Flavie Flamand.
Aujourd'hui, nous sommes samedi, dimanche, lundi, mardi, 3 jours pour préparer Mardi Gras et notre pâte à crêpes. Et ça, c'est grâce à qui? Grâce à Ligori Lecomte. Mon cher Ligori, il y a Pierre Nesman, il est gourmand, vous pouvez pas savoir. La dernière
regarde
fois,
là, il est prêt à prendre toutes les astuces. Là.
Mais voilà, il prend des astuces en général. Il est toujours en train de manger et de piquer un truc dans un coin. Mais là, Tintin, il n'y a pas de pâte à crêpes ce matin. Il n'y a pas de crêpes et il n'y a pas de gaufres.
Même des gaufres, j'aurais fait l'effort. Oui.
Voilà, mais vous restez avec nous, évidemment. Alors, donc on a compris avec vous que pour préparer Mardi Gras, Ligori Lecomte, on pouvait faire des crêpes, on pouvait faire des gaufres, qu'il y avait de la farine toute simple, la farine fluide, on va dire T45. Comment je peux éviter de faire des grumeaux? Est-ce que je les passe au chinois?
Alors oui, alors on appelle ça plutôt un tamis, mais vous pouvez passer au chinois si vous n'en avez pas.
Moi, je fais ce que je veux.
Donc oui. Voilà, donc surtout on tamise sa farine, ça déjà c'est la première chose pour éviter les grumeaux, et après on respecte surtout l'ordre de la recette. En général, les gens ils veulent faire un puits au milieu, ils balancent un litre de lait dedans, puis au final on se rend compte qu'il y a plein de grumeaux. Donc on respecte l'ordre. Moi je vous conseille de rajouter alors les œufs, la farine, ça assez tôt, et le lait le plus tard possible.
D'accord.
Et petit à petit. Okay. Comme ça, vous allez éviter les grumeaux.
Le lait, c'est un de vos trucs pour réussir sa pâte à crêpes
Oui, ouais, c'est d'ailleurs une autre astuce de grand-mère. Donc, on le met le plus tard possible dans la recette pour éviter les grumeaux. Et si vous voulez le rajouter tiède, c'est encore mieux. Ça va encore mieux s'amalgamer. Donc, c'est une autre astuce avec le lait que je peux vous donner.
D'accord. Comment je graisse ma poêle?
Alors, surtout, on évite de mettre un morceau de beurre à chaque fois dedans, puisque
on va alourdir tout ça.
Oh, dommage.
Alors, c'est ce qu'il y a de meilleur.
Alors de là, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un peu de beurre fondu dans la pâte. Comme ça, vous allez moins en mettre dans la crêpière. Donc surtout, prenez un petit pinceau. Comme ça, vous aurez juste une fine couche de gras sur la poêle et ce sera largement suffisant.
Pourquoi la première crêpe, elle est toujours ratée? C'est la même chose pour vous, Pierre, ou pas?
Oui.
Je la foire systématiquement.
Parce que tous les deux, vous êtes trop impatients et trop gourmands. En fait, il faut monter la poêle en température aux alentours des 200 degrés. Et comme tous les deux, vous êtes pressés de la manger, vous n'attendez pas qu'elle arrive à 200 degrés. Du coup, vous versez votre pâte qui est froide. Parfois, vous l'avez mise même au frigo. Et du coup, tout ça, vous allez faire baisser en température la crêpière. Et du coup, vous aurez une feuille cartonnée, un peu râpée
Ceci
au début.
Ceci explique cela. Voilà. Donc, non, moi, j'ai une sorte de petit tas qui ressemble à rien et qui effectivement n'est pas cuit. Donc vous avez raison,
pressé.
C'est vraiment
voilà.
Ce problème. Comment je fais des gaufres de fête foraine, bien hautes, bien croustillantes, celles sur lesquelles on met du sucre glace?
Alors, dans les ingrédients, vous allez avoir différentes choses. Hein. Souvent, il y a parfois du lait et de l'eau, parfois de la bière aussi. Le lait, en fait, ça va vous apporter un côté moelleux à la recette. Mmh. Alors que quand on privilégie un peu plus d'eau ou de bière dans la recette, on va avoir ce côté croustillant. Et autre astuce que je peux vous donner, c'est de monter les blancs en neige quand vous les ajoutez. Comme ça, vous allez incorporer de l'air dedans et avoir quelque chose de très haut et impressionnant.
On passe au beignet. Vous aimez les beignets ou pas?
Oh oui, j'adore ça.
Alors attends.
Avec la confiture à l'intérieur.
Non, mais voilà, c'est ça. Vous connaissez les bugnes?
Alors, je connais les bugnes, oui, tout à fait. Oui.
D'accord, et c'est quoi des bugnes?
Je les connais de vue et je les mange. Mais alors après, vous en donnez la définition.
C'est quoi la différence entre des beignets, des bugnes, des vermeils?
Alors, tout ça, en fait, ça va rester dans la catégorie des beignets. Hein. C'est un petit peu le même débat qu'on a entre le petit pain au chocolat et la chocolatine, vous voyez.
En fait,
les bugnes, ça va être un petit peu les beignets du sud-est, alors que les merveilles, ça sera plutôt les beignets du sud-ouest.
Ok, voilà. D'accord, mais enfin, c'est le même principe.
Bon, ce sera le même principe, un beignet un peu en forme de losange avec un trou au milieu généralement.
Comment on fait ça?
Alors, comment on fait ça? Il va vous falloir donc de la farine, de la levure forcément, un œuf, du lait, de l'eau, du beurre demi-sel. Je précise quand même, ça c'est quelque chose auquel je tiens. Un petit peu de sucre. On va pouvoir mélanger tout ça. Si vous voulez, alors plutôt sec, on utilise de la levure chimique. Si vous voulez des beignets bien gonflés qu'on pourrait même garnir, je vous conseille d'utiliser de la levure boulangère.
Okay.
Donc là, on va laisser reposer. Du coup, on va lui laisser le temps de se gonfler avant de les cuire.
D'accord. Et je mets quel liquide?
Quel liquide?
Ouais, pour faire ma pâte à beignets.
Oui, pardon. Alors bah, là, tout à l'heure, en fait, on a dit qu'on mettait du lait si on voulait quelque chose de plus moelleux.
Oui.
Mais à savoir que ce sera du coup plus lourd. Donc moi, ce que je conseille, c'est mettre de l'eau, voire même de l'eau gazeuse dedans pour apporter encore un peu plus de légèreté et de croustillant à votre pâte et à vos beignets.
Ah oui, parce qu'évidemment, le gaz se diffuse. Enfin,
exactement.
Dans la pâte.
En fait, c'est aussi ce qui se passe un petit peu quand on rajoute de la bière. Il y a déjà les levures, il y a aussi les bulles, mais on peut le faire voilà, tout simplement avec de l'eau gazeuse.
Vous connaissiez ce truc-là?
Non, ça m'intéresse. Parce
mais alors, allez-y, Valigory, la bière. On la met dans la pâte à crêpes?
Alors moi, en général, voilà, en restaurant, on utilisait une bière, vous savez, qui arrivait un petit peu en fin de consommation, et on rajoutait ça, pardon, dans la recette de la pâte à crêpes, et ça permettait d'avoir quelque chose de bien gonflé, bien aéré, qui montait plus facilement. Donc,
et ben voilà,
petit conseil.
On mettra une petite binouze dans nos crêpes.
Et puis vous en gardez une
crêpes.
À côté.
Ouais, la prochaine fois, à consommer évidemment avec modération. Comment je fais frire mes beignets? Ça fait partie des choses qui me font peur, moi.
Alors ouais, ça c'est quelque chose de très important. En fait, moi ce que je vous conseille, c'est une huile de friture qui est pas trop chaude, donc 175-180 degrés.
D'accord.
En général, là, les gens à l'inverse de tout à l'heure, les crêpes, on se disait il faut monter à peu près 200 et attendre. Là en fait, si vous allez monter une huile trop haute en température, vous allez avoir des beignets qui seront très cuits à l'extérieur, mais qui n'auront pas le temps de cuire à l'intérieur. Mmh. Donc du coup, là, on évite de monter trop en température, donc 175-180 degrés. Sans problème.
Et comment je fais pour avoir des bugnes pas trop imbibées, vous voyez, d'huile? Parce que parfois,
alors
c'est
là,
très
tout
désagréable.
Simplement, une fois que c'est cuit, surtout papier absorbant, ça c'est obligatoire. Hein, n'allez pas poser ça dans une assiette directement. Un petit papier absorbant à la sortie de la friteuse, c'est obligatoire.
Alors, une recette personnelle à proposer pour Mardi Gras?
Oui, alors je peux vous en proposer même deux.
Allons-y.
Vous savez que je suis plutôt salé même que sucré. Mmh. Du coup, je vous ai concocté des gaufres salées aux herbes. Donc j'espère que ça va vous convaincre tous les deux de manger des gaufres.
Il adore les herbes, Pierre Nesman.
Ça va bien fonctionner.
Donc avec tout ça, il nous faudra donc des œufs. Tout à l'heure, je vous ai dit, les œufs, il vaut mieux les séparer. Les jaunes d'un côté et les blancs, on va les monter en neige pour pouvoir l'incorporer aux gaufres. Et là, vous aurez des gaufres qui vont monter très facilement. Un petit peu de lait, un petit peu de bière. Temps pour temps, 125 grammes, de la farine, du beurre demi-sel. Là, je mets un petit peu de piment de Cayenne et des herbes hachées. Donc là, vous mettez ce que vous avez chez vous, un persil plat, aneth, ça sera très bien. Vous mélangez la farine avec le piment directement. Vous allez ajouter le beurre fondu, les jaunes. Vous mélangez bien. On ajoute progressivement la bière et le lait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on rajoute les liquides un peu plus tard. Et ensuite, les herbes hachées. On va mélanger ça délicatement et on va incorporer les blancs en neige qu'on aura préparés à côté. Et puis ensuite, bah, vous allez préparer votre petit gaufrier. Vous allez faire cuire ça quelques
trop
minutes.
Bien.
Ça va bien gonfler. Puis vous pouvez même accompagner ça avec une petite crème montée au citron, par exemple, quelques crevettes ou crevettes grises. Ce sera très, très bon si vous voulez faire Mardi Gras, mais même avant d'attendre, enfin, même sans attendre le goûter, vous faites
on
ça
n'est pas
directement.
Obligé,
bah,
non
oui,
plus.
Tout à fait.
Bon, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Ligory Lecomte,
merci
d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef sur le site cuisinelaz.com et auteur culinaire. Merci. Salutations à toute votre petite famille.
Merci beaucoup,
à
Flavie.
Bientôt. Merci beaucoup, Pierre Nesman.
Merci, Flavie.
À la prochaine. Vous repartez avec des recettes super de Ligory Lecomte. Vous pourrez faire des gaufres aux herbes. Et puis, je rappelle également que vous êtes rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6 et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux ceux que vous avez apportés aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt Pierre Nesman.
À bientôt.
Nous voilà bien, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission est à retrouver en podcast sur l'application RTL ainsi que sur tous les sites partenaires. Et pour fêter Mardi Gras, rendez-vous sur RTL.fr pour les recettes gourmandes. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 20h pour le magazine Jour J et samedi prochain pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après, c'est les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.